C'est l'Université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Ce semestre, low-technicisation et numérique avec Stéphane Croza et Audrey Guélou.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le cours émission de la formation Upload, low technicisation et numérique. Vous écoutez la radiographie de 94.9 FM à Compiègne. Il est 14h et nous sommes ensemble dans l'heure qui vient pour parler de low technicisation. Alors c'est Stéphane Croza en studio avec moi qui va nous expliquer en détail ce que ce terme signifie. Bonjour Stéphane.
Bonjour Audrey, bonjour à toutes et tous.
Alors cette formation intitulée donc low technicisation et numérique, on va plus rapidement dire l'ONUM, c'est une formation en ligne animée par les associations d'éducation populaire Picassoft et Framasoft et dont les supports se retrouvent sur le site librecours.net. Alors cette session, c'est une seconde session, on en avait organisé une première plus tôt cette année. Sur cette session, il y a 26 participants et participantes qui nous ont rejoints et donc c'est une formation qui a commencé le 14 novembre dernier et qui se poursuivra jusqu'au 8 janvier 2023. Alors pendant cette période, on aura le plaisir avec Stéphane d'occuper les studios de Graphite chaque lundi de 14 à 15 pour animer la partie théorique de cette formation. Et puis ensuite, tout au long de la semaine, les participants et les participantes sont amenés à travailler sur un projet collectif et puis aussi à partager leurs réflexions, à partager leurs questions et leurs travaux sur Mastodon, un média social décentralisé. Alors l'émission que vous écoutez actuellement sur Graphite, elle est aussi diffusée en direct sur Peertube. C'est un autre média social alternatif, libre, qui permet de partager des vidéos et des vidéos en direct. Et donc, on est en live sur l'instance de l'association Picassoft. Donc, vous pouvez nous poser vos questions sur les commentaires et dans le chat du live qui est accessible sur l'adresse tube.picassoft.net. Et vous retrouverez la chaîne Upload l'ONUM. Vous pouvez rechercher l'ONUM Librecours, vous allez nous retrouver. Donc, vos questions sont les bienvenues. On va essayer d'y répondre en direct. Et donc on se lance à la technicisation, on a dit c'est au cœur de la formation l'ONIM, on va découvrir ensemble ce que cela veut dire dans l'heure qui vient. Stéphane.
Donc le technicisation, à la base, ça vient de low-tech. Les low-tech, en français, c'est les basses technologies, c'est-à-dire en fait apporter une solution plus simple, moins sophistiquée, qui requiert moins de complexité technologique à des problèmes qui restent toujours les mêmes. Et le fait d'ajouter le suffixe Zation, c'est le fait d'apporter en fait ce regard low-tech, pas de transformer toute notre ingénierie à l'UTC en low-tech, mais vraiment de s'inspirer des principes low-tech pour un peu l'infuser à travers les technologies qu'on développe à l'UTC.
On vient d'entendre la voix de Garance Régimbeau, qui est étudiante à l'UTC et membre du collectif Ingénierie Soutenable à l'UTC, qui nous présentait le label Ingénierie Soutenable mis en place à l'Université de Technologie de Compiègne. Donc.
Oui, et c'était chouette de commencer par cette citation de Garance, parce que justement le terme de l'autechnicisation, eh bien, il a été forgé à l'UTC par ce collectif. Voilà, donc du coup ça leur rend hommage. Et la première définition qui nous en a été donnée, bah, on va tout de suite s'appuyer dessus, c'est-à-dire que l'enjeu de la low-technicisation, eh bien, c'est de réduire le spectre fonctionnel la complexité technologique des objets que l'on conçoit, donc là en tant qu'ingénieur au sens large, autant que personne qui concevons des objets. Comme ça a été dit également, eh bien, on a affaire à un processus. Hein, donc l'enjeu, c'est de chercher à faire plus quelque chose. Alors plus quoi ? Eh bien justement, on va s'appuyer sur les termes de soutenabilité et de convivialité. Donc j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais donc l'objectif, ça va être la low-technicisation. Hein, donc on peut conclure en disant que ça va être un processus dont l'objectif va être de faire plus soutenable et plus convivial. Et pour ça, une des pistes, eh bien, ça va être de réduire le spectre fonctionnel et donc la complexité technologique des objets. La première chose que l'on peut poser, c'est que la low-technicisation, eh bien, c'est aussi un concept que l'on a construit en regard de ou en opposition à le technosolutionnisme. Alors, l'idée, c'est qu'on va pouvoir mettre sur un axe, hein, d'un côté, le technosolutionnisme et de l'autre, la low-technicisation. Du côté de la low-technicisation, on aurait quelque chose comme une vision écologiste des problèmes que l'on rencontre, c'est-à-dire, et là je cite Jared Diamond, « les problèmes environnementaux que nous connaissons sont graves, les taux de croissance économique et démographique que nous enregistrons ne peuvent être maintenus ». C'est-à-dire, si on pense effectivement que d'une part on a des problèmes importants et que d'autre part la croissance que l'on a aujourd'hui eh bien, ne peut être maintenue, eh bien, ça veut dire que, d'une certaine façon, notre mode de fonctionnement actuel doit être remis en cause. Quelque chose sur lequel on reviendra aussi. Du côté techno-solutionniste, eh bien, toujours pour reprendre une citation de Jared Diamond, alors c'est ce qu'il appelle les non-écologistes, hein, faute de trouver un terme plus adapté, il le formule ainsi en disant « Les inquiétudes des écologistes sont exagérées, voire infondées. Le maintien de la croissance économique et démographique est une chose possible autant que souhaitable. » Donc on voit bien, on a deux visions de la situation. D'un côté, eh bien, on considère qu'on a des problèmes graves et que l'on ne peut pas maintenir notre mode de fonctionnement actuel. Et de l'autre, on considère qu'on a des problèmes moins grave ou moins critique et que, eh bien, il est possible de maintenir notre mode de fonctionnement actuel. Alors, j'évacue tout de suite hein, dans cette opposition deux autres postures que l'on pourrait envisager, hein, celle des éco-sceptiques ou éco-négationnistes ou climato-sceptiques, etc. On l'évacue, hein, les techno-solutionnistes ne sont pas du tout arrangés dans cette catégorie, on va y revenir, mais ils vont effectivement prendre acte d'un certain nombre de problèmes, mais en revanche penser effectivement que l'on peut trouver des solutions à ces problèmes. J'écarte aussi côté low-technicisation, ce que l'on pourrait appeler les technophobes ou des personnes qui pensent que, eh bien, il faudrait revenir à un niveau technologique antérieur, voire très antérieur. L'idée de la low-technicisation, c'est pareil, ça n'est pas un retour en arrière sur les techniques ou un abandon des techniques. C'est encore une fois, comme on l'a commencé à le voir et comme on va le revoir, eh bien, plutôt une logique qui va chercher à re-questionner encore une fois, la façon de concevoir ces techniques. Alors, j'espère que ça ne vous paraît pas trop flou. Hein. Évidemment, là, je suis en train de faire une introduction et tout ce que l'on va dérouler dans l'heure, eh bien, va consister à justement rentrer un petit peu dans le détail de cela. Alors, une autre façon peut-être d'illustrer cette opposition entre low-technicisation et technosolutionnisme, consiste à s'appuyer sur un travail qu'a réalisé l'ADEME, donc dans un document qui s'appelle Transition 2050. Alors, ça concerne que la neutralité carbone. Hein, on aura l'occasion d'en reparler un tout petit peu, et puis surtout dans deux autres semaines, je crois, avec Benjamin Lucier, on rentrera un petit peu dans le détail de ça. Mais même si, effectivement, dans les médias, on parle beaucoup de la question du carbone dans l'atmosphère, c'est pas du tout le seul problème écologique qui se pose, hein. J'y reviendrai un petit peu plus tard également. Donc là, ça ne parle que de ça, et donc l'enjeu a été pour l'ADEME d'imaginer quatre scénarios différents qui tous aboutissent à la neutralité carbone en 2050. Hein, donc, un des objectifs poursuivis par les nations, donc en particulier par la France, de dire voilà, comment est-ce qu'on peut faire. Alors, je vais commencer par le côté technosolutionniste, et donc vous dévoiler, je vais illustrer ici que deux de ces quatre scénarios, les deux plus extrêmes, les deux du milieu, eh bien on pourra en discuter dans les questions si vous le souhaitez. Le plus à droite sur mon schéma de ces approches, qui relèvent du technosolutionnisme, eh bien c'est ce que l'ADEME appelle le pari réparateur. En quelques mots clés, l'idée est de maintenir une consommation de masse, de maintenir nos modes de vie actuels, de prôner l'étalement urbain et, en contrepartie, eh bien, de travailler sur la réparation des écosystèmes. Donc le fait d'inventer, de trouver de nouvelles techniques qui vont nous permettre de réparer les écosystèmes que par ailleurs nos modes de vie, notre consommation de masse participent à détruire. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, hein, mais dans ce scénario, eh bien, il y a par exemple l'idée de maintenir l'agriculture intensive telle qu'elle est actuellement, d'augmenter le recyclage, d'investir énormément sur l'innovation technique, la numérisation, donc en particulier les data centers, la mondialisation pour optimiser au mieux les productions, etc. Donc en quelque sorte, eh bien, on voit, c'est un modèle qui est tout à fait compatible avec nos modes de fonctionnement actuels et dans lesquels, eh bien, on espère, on fait le pari que si on investit sur les bonnes innovations, elles vont nous permettre de trouver les solutions. Alors, je vais la partie suivante sera consacrée à la critique explicite de ces scénarios, mais je mentionne donc rapidement le scénario S1, génération frugale, que donc je place du côté de la low technicisation. Dans ce scénario, on a un changement un peu plus important puisqu'on a donc la recherche de sens qui va être en quelque sorte en en regard de la consommation de masse, on va avoir une frugalité contrainte. Donc ce scénario est intéressant parce que ce n'est pas uniquement un scénario idyllique. Hein. On voit ici qu'il y a une notion de contrainte, par exemple contrainte de l'État, qui interviendrait sur la frugalité. La démétropolisation, donc réduction de la place dans les villes. Et puis la mise en place de nouveaux indicateurs. Donc typiquement, remettre en cause l'indicateur tel que le PIB, fondé sur la croissance, pour en trouver d'autres. Alors pareil, quelques points très rapidement, mais dans ce scénario, si on fait le lien avec le numérique, eh bien, il y a l'idée que, par exemple, la quantité de data centers doit rester stable. C'est-à-dire qu'on va faire avec, demain, donc le nombre de data centers dont on dispose aujourd'hui. Donc on n'en construira pas de nouveaux, ou en tout cas on se contentera de renouveler ceux qui seront détruits. On arrêtera la construction neuve, on diminuera la construction neuve, hausse de la marche et du vélo, etc. etc. Diminution drastique de la viande, par exemple. Voilà. Donc du coup, là, on intervient, hein, on va décider de percuter eh bien, nos modes de vie actuels pour essayer de faire différemment.
D'accord Stéphane, donc si on comprend un petit peu la philosophie derrière l'opposition entre ce scénario S1 et scénario S4, tu prenais par exemple l'exemple des data centers, l'idée donc c'est pas d'essayer d'optimiser ce que l'on va pouvoir faire avec les data centers, d'optimiser, les données qu'on va stocker là-dedans, l'idée c'est pas de partir sur cette idée d'efficience, d'optimisation, et de vouloir faire plus mais de façon optimisée, mais plutôt donc de faire des choix en amont pour partir plutôt sur une forme de sobriété, donc quelque chose qui nous permette plutôt de pas construire plus, de ne pas faire plus. C'est ça.
Ouais, tout à fait. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on va le redévelopper un petit peu, hein, mais il y a l'idée que du côté du technosolutionnisme, eh bien, on est essentiellement dans une logique d'optimisation, d'efficience. C'est-à-dire qu'encore une fois, comme tu l'as très bien dit, eh bien, par exemple, dans le domaine du numérique, on va chercher à faire des machines de plus en plus performantes et qui vont notamment consommer de moins en moins. Alors, on va voir pourquoi est-ce que c'est pourquoi justement c'est une solution qui peut-être n'est pas complètement une solution, alors qu'à l'inverse, eh bien, dans la low-technisation, on va changer notre mode de vie et en particulier vers des modes de vie plus sobres.
L'idée, ça serait de devenir justement de rentrer dans cette boucle des amas de la connaissance, du libre, de partager dans une société du partage. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de service com, il n'y a pas de service client, il n'y a pas de service pub. L'échange, c'est entre le développeur et l'utilisateur. Ce n'est pas un client, c'est un utilisateur. C'est potentiellement vous, c'est potentiellement un autre développeur. Et l'idée, c'est vraiment d'échanger et d'apporter tous ensemble, de construire une nouvelle société. Et donc, l'idée, ça serait qu'on veuille aller vers une société un peu alternative, centrée sur le partage et la collaboration. Et la question qu'on doit se poser, c'est sur quoi on doit créer cette société. Aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a un support sur lequel on fait société, c'est Internet. Et si on veut une société un peu saine, décentralisée et basée sur le partage, il faut qu'on commence par faire que notre support pour créer cette société le soit libre, neutre et décentralisé. Donc justement, on reboucle sur toute notre conférence, c'est que cette société justement qu'on veut et qu'on peut construire ensemble, qui n'est pas qu'une société d'informaticiens et d'artistes, elle peut se faire, mais il faut qu'on ait tous conscience des enjeux qu'il y a derrière sur ce qui fait notre société et qui est aujourd'hui Internet.
Bien d'entendre la voix de Marc Damy qui parlait lors de la conférence Les AMAP du numérique qui avait été organisée par les associations Picassoft et Rhizome à l'UTC en 2019. Vous pourrez retrouver la conférence tout en entière sur tube.picassoft.net.
Alors, à présent, je l'ai promis à plusieurs fois, donc on va revenir un petit peu quand même sur une critique du technosolutionnisme, parce que quelque part, si on parle de l'autechnicisation et si on veut mettre ça en avant, c'est bien parce qu'il y a une critique en amont du technosolutionnisme. On pourrait passer, je pense, une heure dessus, hein, mais je vais donc donner quelques pistes, quelques ouvertures, et puis encore une fois, on pourra en rediscuter un petit peu ici, en direct, ou éventuellement un petit peu plus tard à travers Mastodon, comme tu l'as suggéré. Si je propose une première entrée en matière, un premier modèle, eh bien on peut considérer, alors encore une fois, hein, c'est dessiné un petit peu à la hache, hein, histoire de poser les éléments, mais aujourd'hui, eh bien on a un fonctionnement technique, de développement des dispositifs techniques, qui est basé sur l'innovation et l'invention, qui est essentiellement dirigé par des possibles économiques, c'est-à-dire on va faire ce qui est économiquement rentable, possible, d'un côté, et puis de l'autre côté, une logique d'application industrielle. C'est-à-dire on va essentiellement investir techniquement là où on est capable de faire un développement industriel, c'est-à-dire massif. Les deux concepts qui se raccrochent à ça, un peu historiquement, on va dire, dans l'histoire de la société moderne, c'est les notions de progrès et les notions de croissance. Alors, pareil, hein, pour qui les caricaturait un petit peu. Mais en gros, l'idée générale du progrès, c'est la technique est bonne, c'est-à-dire que, eh bien, à partir du moment où on va faire des développements techniques, on progresse, donc c'est mieux. Et puis, l'idée de la croissance, c'est plus, c'est mieux. C'est-à-dire qu'effectivement, si on a plus de choses, eh bien, grosso modo, bah, on est plus content, quoi. Pour, voilà, encore une fois, pour caricaturer un petit peu. Mais si on réfléchit un petit peu, hein, c'est vraiment des éléments qui sous-tendent notre mode de fonctionnement actuel. Alors, c'est critiqué par notamment un terme issu de la tradition grecque qui s'appelle l'hubris. C'est-à-dire qu'à un moment, le problème de ces deux, on va dire, de ces deux composantes, le progrès et la croissance, eh bien, c'est qu'elles peuvent nous conduire à trop de progrès ou trop de croissance, c'est ce qu'est effectivement ce que l'on peut estimer observer actuellement, lorsque le progrès nous amène à des techniques qui sont délétères, dangereuses, et lorsque la croissance nous amène effectivement à épuiser les milieux naturels. Alors, si on fait un peu le lien avec, resynthétiser très très rapidement, hein, mais en gros, d'un côté, on a notre société tente à renforcer la place de la technique, hein, à travers, encore une fois, les applications industrielles et le développement économique associé. Mais ça a comme conséquence une certaine aliénation des humains par la technique, d'une part, et d'autre part, une domination de la nature, hein, une exploitation de la nature par la technique. Alors, c'était une présentation un petit peu théorique et synthétique. Maintenant, je vais vous proposer quelques axes particuliers, hein, de critique de cette approche solutionniste. Alors, un premier, je vais passer rapidement, puisque pareil, Benjamin y reviendra dans deux semaines, je pense. Eh bien, c'est la notion d'effet rebond, également appelé paradoxe de Jevons. L'idée, en quelques mots, est assez simple. Et pour autant relativement contre-intuitif, c'est-à-dire qu'on a tendance à penser que si on optimise une technologie, donc par exemple si elle nous permet de rendre le même service avec une consommation réduite, eh bien c'est mieux, puisque du coup, évidemment, on va faire une économie d'énergie. En fait, ce que l'on observe depuis, depuis quasiment les débuts de l'industrialisation, en tout cas depuis la moitié du XXe siècle, c'est que quasi systématiquement, les bénéfices technologiques de l'optimisation sont systématiquement réinvestis donc par notre système industriel capitaliste dans de la nouvelle création fonctionnelle, dans de la nouvelle création de besoins. Et donc, in fine, eh bien, les bénéfices attendus de l'optimisation, on les perd en chemin dans un nouveau développement. Alors, ça a été pas mal étudié au niveau, par exemple, de l'automobile, hein. En gros, il y a eu des progrès techniques extrêmement importants dans le domaine de l'automobile en 50 ans. Et pour autant, eh bien, une voiture, ça consomme toujours à peu près autant que cela ne consommait il y a 50 ans. Alors évidemment, hein, on peut regarder les choses un petit peu dans les détails, mais en tout cas, il n'y a pas du tout de changement en ordre de grandeur. Dans l'informatique, ça marche aussi très bien, hein. Les machines ont des gains de performance absolument colossaux par rapport aux premiers ordinateurs, et pour autant, eh bien, on leur demande de faire de plus en plus de choses. Donc, in fine, il n'y a pas de baisse significative de la consommation des ordinateurs pris individuellement. Et en plus, comme il y a une hausse de l'informatisation, eh bien, il y a une hausse globale de la consommation de l'informatique qui est tout à fait mesurée aujourd'hui. Alors, je reviens pas, voilà, encore une fois, je détaille pas plus longuement, hein, parce que Benjamin y reviendra, mais si vous avez des questions autour de ça, on pourra essayer d'y répondre. Alors ensuite, il y a un autre point peut-être que l'on peut opposer au technosolutionnisme, c'est la problématique de la complexité. Les problèmes écologiques que l'on rencontre aujourd'hui sont complexes, ils sont systémiques, c'est-à-dire qu'ils vont toucher plein de paramètres, ils sont long terme et ils sont planétaires. Or, si on pense solution, hein, avec les outils classiques de l'ingénieur, eh bien, c'est en général extrêmement difficile, voire on peut considérer impossible, d'adresser un problème qui a ses caractéristiques complexes, systémiques, long terme et globales au niveau planétaire. Donc, en gros, si on imagine des solutions, on va tout le temps avoir un peu des surprises. Alors, le problème, c'est quand le fait d'avoir des surprises n'est plus une surprise. Donc, si on a tout le temps des surprises, à un moment, c'est quand même on peut considérer qu'il y a un problème méthodologique. Donc, la logique de l'optimisation, elle est difficile, encore une fois, à mener sur tous les plans. Alors, plus concrètement, si vous prenez un objet qui consomme moins ou différemment, par exemple, encore une fois, on peut continuer avec une voiture électrique qui va donc ne pas rejeter de CO2 dans l'atmosphère pendant son usage. Mais pour autant, cette voiture, elle va venir avec une dette de carbone. Par exemple, l'ADEME estime que son coût carbone de production va être 2 à 3 fois supérieur à celui d'une voiture thermique. Donc du coup, il faut utiliser la voiture dans certaines conditions, la renouveler dans certaines conditions pour arriver à rentabiliser en quelque sorte le gain. Mais c'est pas tout. C'est-à-dire que là, on ne parle que du carbone. C'est aujourd'hui quelque chose dont on parle le plus d'un point de vue médiatique, hein, décarboné. Mais en fait, aujourd'hui, il y a d'autres coûts environnementaux, d'autres limites planétaires qui ont été proposées. Hein. Alors, je ne vais pas toutes les citer, mais on a la problématique de l'érosion de la biodiversité, la perturbation d'autres cycles, hein, l'azote, le phosphore, le problème d'occupation des sols, l'utilisation de l'eau, acidification des océans, etc. On a plein de paramètres et plusieurs de ces paramètres sont problématiques. Pour plusieurs de ces paramètres, on a dépassé les limites que l'on avait estimées comme étant supportables par la planète. Et donc, si on revient à mon exemple de tout à l'heure, eh bien, une des difficultés, c'est qu'en cherchant à optimiser un de ces paramètres, par exemple le coût carbone, eh bien, on peut désoptimiser ou poser des problèmes sur d'autres paramètres. Par exemple, dans le cas des batteries aujourd'hui, hein, on le sait, ça pose des problèmes au niveau des minerais, ça peut poser des problèmes au niveau de l'eau, voire de la biodiversité dans certains cas. Donc, en gros, ce qu'on gagne d'une main, on peut le gagner de l'autre, on peut le perdre de l'autre, pardon. Mais pour autant, eh bien, mettre les deux en regard et en comparaison est quasiment impossible, puisque évidemment, voilà, c'est difficile de mesurer combien de problématiques de minerais rares on peut poser ou combien d'eau on peut gâcher pour tant de carbone à récupérer. Donc ce que je cherche à dire par là, ce n'est pas que la logique d'optimisation ou que le technosolutionnisme n'est absolument pas pertinent ou inutile. Ce que je cherche à dire, c'est que on observe que la promesse de solution, eh bien, elle est quand même difficile à tenir, justement parce qu'il y a plein d'effets complexes qui sont extrêmement difficiles à anticiper dans la logique d'ingénierie. Voilà, on est dans un cadre difficile, très difficile, et donc l'anticipation peut être problématique.
La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. Nous sommes, pour une large part, gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. C'est là une conséquence logique de l'organisation de notre société démocratique. Cette forme de coopération du plus grand nombre est une nécessité pour que nous puissions vivre ensemble au sein d'une société au fonctionnement bien huilé. Le plus souvent, nos chefs invisibles ne connaissent pas l'identité des autres membres du cabinet très fermé auquel ils appartiennent. Ils nous gouvernent en vertu de leur autorité naturelle, de leur capacité à formuler les idées dont nous avons besoin, de la position qu'ils occupent dans la structure sociale. Peu importe comment nous réagissons individuellement,
on vient d'entendre les premiers mots de propagande d'Edouard Bernays, qui continue de parler, c'était en 1928. Donc c'était lu par Eric Erson Macarel, c'est dans l'ouvrage Sixth Street de 2019, à retrouver sur sixthstreet.fr. Bien, alors après ce petit extrait, on peut se demander, Stéphane, que faut-il remettre en question, que faut-il re-questionner pour voilà, essayer de rediriger l'innovation, l'invention, etc. Que par où on attaque ce problème?
Ben, on a vu un des les premiers blocages, c'est donc la complexité avec un certain nombre d'effets directs et indirects induits. Un autre problème qui est introduit par l'exemple qu'on a écouté, hein, ce sont donc les, comme tu l'as dit, les premiers mots d'Edouard Bernays, qui est un des théoriciens de la publicité du lobbying. Donc il explique, hein, c'était pas du tout un, pour ceux qui l'ont découvert cet extrait, c'est pas du tout un extrait ironique, hein, il est pas en train de se moquer. Son livre s'appelle Propaganda et donc il est vraiment en train d'expliquer comment faire pour eh bien, manipuler les masses. Alors, pourquoi est-ce que l'on parle de ça? Eh bien, parce qu'on a un autre effet qui peut nous interroger avec le solutionnisme, c'est qu'en optimisant nos outils, donc par exemple, là je vais reprendre un exemple dans le domaine informatique, en optimisant par exemple le réseau mobile, par exemple avec la 5G, eh bien, en fait, on va indirectement favoriser le déploiement du capitalisme de surveillance. C'est-à-dire que l'on va favoriser, eh bien, par exemple, des réseaux sociaux, des services Internet, des services web comme Facebook ou YouTube. En quoi est-ce problématique? Eh bien parce que ces services eux-mêmes reposent sur la publicité. Reposant sur la publicité, ils reposent donc sur la consommation de plus de produits non désirés. Et donc on a indirectement ici un effet qui est difficile, hein, à gérer en quelque sorte, qui est qu'en développement numérique, on va développer le capitalisme de surveillance, le pouvoir d'acteur dont le modèle lui-même, eh bien, va être néfaste sur l'environnement, encore une fois, indirectement, je suis même pas en train de parler ici des serveurs, des data centers et de la vidéo qui est stockée par YouTube. Je parle du fait que quand on pour que YouTube fonctionne, eh bien, il faut acheter d'autres trucs et que ces autres trucs eux-mêmes sont potentiellement problématiques. Et non seulement acheter d'autres trucs, et acheter toujours plus d'autres trucs et de trucs qui a priori ne sont pas nécessaires ou dont on n'a pas ressenti le besoin avant que la publicité nous manipule tel que, encore une fois, c'est théorisé et construit eh bien, par les publicitaires. Alors, je passe à un quatrième sujet, ma quatrième critique en quelque sorte ici du technosolutionnisme. Eh bien, comme on l'a vu dans l'intitulé proposé par l'ADEME, il s'agit d'un pari. Un pari, c'est-à-dire que, eh bien, par définition, un pari, on n'est pas sûr de le gagner. Et ici, on a aujourd'hui, on le sait, une échéance temporelle qui n'est plus ce qu'un pari qu'on gagnerait ou qu'on perdrait dans 2000 ans, on pourrait s'en moquer un petit peu. Mais on est en train de parler maintenant d'un pari dont le fait de le gagner ou le perdre aura une conséquence d'ici quelques années ou quelques dizaines d'années, en tout cas une échelle qui peut commencer à nous préoccuper à titre individuel. Du coup, ce sera la conclusion de cette partie. Hein. Ensuite, on pourra passer effectivement à une description un peu plus détaillée de ce qu'on entend par low-technicisation. Mais en gros, pourquoi travailler sur la low-technicisation, a fortiori dans une école d'ingénieurs ou dans une formation technologique comme celle que l'on mène dans Upload l'ONUM ? Eh bien, pour plusieurs raisons, mais par exemple déjà pour que l'on puisse en débattre. Il y a un enjeu démocratique, c'est-à-dire que pour que, eh bien, par exemple, les quatre scénarios de l'ADEME puissent être discutés, eh bien, il faut qu'ils existent. Or, aujourd'hui, on se rend compte que parmi ces quatre scénarios, en fait, il n'y en a que deux, essentiellement, le S4 et le S3, qui sont fortement développés par notre société. Donc, on a un débat qui n'est pas évident. En lien, donc, il faut laisser le choix. Donc, ça, c'est plutôt ça peut permettre de laisser le choix, un enjeu de liberté individuelle. Aujourd'hui, je n'ai pas le choix, par exemple, de rouler dans une automobile low-technicisée, tout simplement parce qu'elle n'existe pas, ou alors je serais en danger sur la route avec une voiture très légère et peu puissante. Troisième possibilité, eh bien, évidemment, on arrive à la notion de pari. Hein, au cas où le modèle solutionniste ne fonctionnerait pas et qu'on s'en rendait compte assez tôt, eh bien, il serait quand même intéressant qu'on ait d'autres pistes. Et puis, quatrième perspective, celle d'anticiper aussi un effondrement, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'auteurs considèrent que l'on est déjà dans une société en effondrement. Alors, je fais une petite parenthèse, mais Jared Diamond, que j'ai déjà cité, décrit les différents critères de l'effondrement. Et effondrement, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va mourir et que tout va disparaître. Ça peut être un processus extrêmement long dans lequel, effectivement, une société se transforme petit à petit et par, effectivement, la destruction de ses principes fondateurs. Voilà. En tout cas, si jamais on était en effondrement ou on devait entrer en effondrement, eh bien, le fait d'avoir des approches de ce type-là pourrait être souhaitable, en quelque sorte. Quoi.
Un paradigme n'est pas réductible à une théorie, ni même à un ensemble de théories. Il inclut bien sûr des théories, mais également des manières de poser les bonnes questions, des techniques permettant de répondre à ces questions et des croyances métaphysiques d'arrière-plan qui sont partagées par les membres d'une collectivité scientifique à un moment donné de l'histoire. Selon Kuhn, les paradigmes seraient incommensurables, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas entre eux de commune mesure.
C'était le début donc de la notion de paradigme de Thomas Kuhn, exposée par Jean-Luc Kongloff, qui est au laboratoire d'histoire des sciences et de philosophie. C'était sur la chaîne La Philo en petits morceaux, que vous retrouverez sur l'instance des archives Henri Poincaré, vidéo.ahp-numérique.fr. Donc on vient d'entendre cette notion de paradigme. Stéphane, tu nous parlais juste avant de ce possible effondrement, et donc on n'a pas le choix que de faire ce pari pour essayer de changer justement de modèle, de paradigme, et donc on va en proposer un autre avec ce concept de low-technicisation qui part donc sur d'autres bases.
Ouais, c'est ça, c'est une des idées, hein. En quelque sorte, hein, alors là, un clin d'œil à mon collègue Hugues Choplin, avec qui on discute pas mal de sens pour moi, mais une des hypothèses que l'on va poser, c'est qu'effectivement, on aimerait bien, en fait, pouvoir faire à la fois du technosolutionnisme et de la low-technicisation, prendre le meilleur des deux, les composer, etc. Il y a du technosolutionnisme, hein, c'est tout à fait désirable, hein, en termes de médecine, de culture, etc. Il y a plein de choses que l'on a envie de voir advenir. Mais du coup, on a peut-être un problème problème, c'est que la composition entre les deux, eh bien, est peut-être pas faisable. Alors, pour revenir sur le petit extrait qu'on a entendu, donc Thomas Kuhn pose cette idée de changement de paradigme avec une image que voilà que je vais vous partager ici. Dit, voilà, en fait, c'est le changement de paradigme, c'est à un moment où vous jouez à un jeu, par exemple aux échecs. Vous êtes bon aux échecs, voilà, vous savez jouer aux échecs, vous connaissez les règles des échecs. Et en fait, ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que, il est temps de jouer à un autre jeu. Donc, par exemple, le Go. Si vous connaissez le Go, hein, le Go et les échecs, c'est certainement deux jeux qui sont comparables, hein, probablement aussi intéressants, etc. Mais en fait, le fait de si vous jouez à un des jeux, vous comprenez à peu près rien à ce qui se passe sur l'autre jeu, puisque leurs règles sont extrêmement différentes. Alors, voilà, on va pas rentrer dans le... Enfin, je vais pas prendre beaucoup plus de temps pour ça, mais cette idée derrière la low-technicisation et le technosolutionnisme, on va la garder en toile de fond, c'est que on a peut-être des paradigmes quand même qui s'opposent. Et si on a des paradigmes qui s'opposent, bah, c'est quand même un peu embêtant, parce qu'effectivement, du coup, il y a une logique de confrontation qui se met en marche. Alors après, effectivement, comment est-ce qu'on la gère? Ça, c'est la question d'après. On ne va pas la traiter aujourd'hui. Mais en tout cas, on va peut-être prendre cette hypothèse. Alors, pour revenir sur la low-technicisation, hein, si j'en refais une définition en reprenant un petit peu les mêmes modes de fonctionnement tout à l'heure, là, que j'ai fait sur le technosolutionnisme, je vous en fais la proposition suivante. La low-technicisation, ce serait une invention... On garderait hein, les concepts d'invention et d'innovation, mais qui sera en quelque sorte redirigé. Tout à l'heure, on a vu qu'ils étaient dirigés vers la croissance et le progrès. Et bien maintenant, on les redirigerait vers la convivialité et vers la soutenabilité. On a vu tout à l'heure qu'ils étaient sous-tendus par l'industrie et le capitalisme. On les sous-tendrait ici plutôt par les objets techniques plutôt que leur industrialisation en tant que telle. Et puis les modes de vie plutôt qu'encore une fois le mode économique avant tout. Alors, si on le redirige vers la convivialité et la soutenabilité, la convivialité, on pourrait le définir comme la technique n'est pas neutre. Alors, coutume de dire parfois à l'UTC, la technique n'est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre. C'est-à-dire qu'à un moment, eh bien, les outils techniques que l'on construit et que l'on utilise participent à configurer notre champ du possible et donc, in fine, notre humanité. Et pour la soutenabilité, on pourrait avoir quelque chose comme d'abord ne pas nuire, si on veut l'emprunter au serment d'Hippocrate, c'est-à-dire à un moment se poser les questions de en quoi ce que l'on construit comme environnement technique, porte préjudice ou ne porte pas préjudice ou porte moins préjudice au milieu naturel. Alors tout ça pourrait être sous-tendu par ou relié par le concept de médiété donc qui nous est proposé par Aristote, qui consiste en quelque sorte et eh bien à rechercher comme on le suppose une sorte de se poser la question en fait hein, donc à la différence de l'ubris que l'on avait tout à l'heure qui était une démesure par principe et eh bien là l'enjeu c'est bien de se poser la question et d'accepter de faire des choix entre ce que l'on fait, ce que l'on ne fait pas, donc ici ce que l'on construit, ce que l'on construit pas. En conséquence, pour continuer le miroir avec tout à l'heure, là où tout à l'heure on avait un dispositif d'aliénation, et eh bien là on aurait quelque chose qui permet de redonner de l'autonomie aux humains. Et là où tout à l'heure on avait une logique de domination de la nature, et eh bien on pourrait avoir une logique de redonner la place à l'insertion des humains dans la nature, le respect également des processus naturels. Hein. Peut-être un tout petit exemple qui me vient comme ça, mais... typiquement sur l'agriculture, hein, alors encore une fois on n'est pas dans le numérique, mais typiquement sur l'agriculture, c'est là des choses qu'on a bien observées, le fait de chercher à systématiquement reconfigurer la nature avec des objets techniques ou des outils techniques, eh bien c'est l'utilisation massive d'engrais, de mécanisation, etc. Là où on se rend compte que, au contraire, s'insérer dans un certain nombre de processus naturels, eh bien permet de faire l'économie de ces intrants techniques-là pour des fonctionnements qui peuvent être tout à fait comparables, voire même mieux fonctionner.
Pour pouvoir rendre politiquement faisable ce dont je discute, sont des accords majoritaires sur certaines dimensions bases dans lesquelles nous disons telle vitesse est suffisante, tel outillage pour la santé est suffisante. Et même si tu veux l'avoir, au moins socialement, on ne produit pas plus pour toi que ce qui a été décidé comme assez bon pour tout le monde par accord communautaire. Dans le moment présent, et depuis la Révolution française, de plus en plus, on définit comme but d'une démocratie de définir en commun le minimum que tout le monde doit avoir. Je propose une inversion de ce concept. De faire but principal d'une politique saine la recherche du maximum sur lequel tout le monde peut se mettre d'accord que c'est suffisant pour chacun.
C'était la voix d'Ivan Illich en entretien avec Jean-Marie Domenac lors de l'émission Un certain regard le 19 mars 1972. Vous retrouverez cet entretien complet sur aperi.tube. On parle donc de convivialité et de soutenabilité. Stéphane, est-ce que tu souhaites creuser un petit peu plus la définition de ces deux termes-là ?
Oui, je vais vous proposer deux définitions assez courtes. Donc la première en lien avec ce qu'on vient d'entendre, donc une définition qui est recomposée à partir de ce que nous dit Ivan Illich. Et donc je vous propose, pour une définition de convivialité, c'est des objets que l'on peut utiliser aussi souvent ou aussi rarement qu'on le désire, en respectant les autres humains. Donc voilà l'idée générale de la convivialité. Utiliser aussi souvent ou aussi rarement qu'on le désire, dans le respect des autres. Là aussi rarement, évidemment, a son importance, hein, je l'ai souligné, je le refais rapidement. Mais peut-être si je peux prendre un tout petit exemple, là, encore une fois tiré de Illich, hein, il nous dit « Une société équipée du roulement à billes et qui irait au rythme de l'homme serait incomparablement plus efficace que toutes les sociétés rugueuses du passé et incomparablement plus autonome, c'est le terme qu'il utilise, que les sociétés programmées du présent. » Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas de retourner, comme on l'entend parfois, à l'âge de pierre, mais de chercher eh bien, une voie médiane, de se poser des questions, à un moment donc d'accepter par exemple une technologie comme le roulement à billes, qui n'est pas du tout une technologie simple, hein, Philippe Bewix le souligne dans son ouvrage « L'âge des low-tech ». Le roulement à billes est déjà un résultat de l'évolution technique assez important, qui est difficile à entretenir, à fabriquer, etc. Et pour autant, eh bien, entre ça et puis, encore une fois, un certain nombre d'autres développements postérieurs, eh bien, peut-être qu'on peut chercher à être un peu au milieu. Donc voilà pour la convivialité. Quant à la soutenabilité, eh bien, je vous propose que l'on peut construire, utiliser, réparer et détruire dans le respect des limites planétaires. Alors comme exemple, je vais prendre une autre citation d'Abrassard. Une voiture soutenable serait bridée, composée d'éléments facilement réparables et remplaçables, consommant le minimum possible, d'un poids réduit, en système de partage, dans un monde où les mobilités seraient réduites. Là, c'est un exemple avec la voiture. Demain, on parlera d'un petit jeu qu'on a fait qui s'appelle le l'iPhone. Peut-être qu'on en parlera un petit peu à la fin s'il nous reste du temps. Mais on retrouve ici aussi des choses qui d'ailleurs sont aussi en lien avec le Fairphone. Hein, donc là, un objet qui est vraiment construit aujourd'hui. Cette idée de modularité, de remplaçabilité, de réparabilité. Et puis également de partage. Alors, imaginez un téléphone en partage. Ça peut paraître absurde en 2022, pourtant quand on a un petit peu plus de 20 ans comme moi, eh bien, on a connu un téléphone fixe, par définition c'est un téléphone en partage, hein, qu'on ne peut pas utiliser quand quelqu'un d'autre l'utilise. Donc voilà, ça pourrait aussi se poser la question, où les mobilités seraient réduites pour la voiture, eh bien, de la même façon, est-ce que vraiment il est totalement nécessaire à un moment, hein, encore une fois, il faut le ramener à des coûts, d'avoir un réseau aussi disponible que celui qu'on a aujourd'hui. D'autres exemples que l'on pourrait dérouler, il y en a un, je vais pas le citer, mais donc je renvoie sur le site pour ceux que ça intéresse, xd.adem.fr, hein, extrême défi. L'idée est c'est toujours l'exemple de ma voiture, je l'ai pris pas mal de fois, donc j'arrête là, mais d'imaginer une voiture 10 fois moins coûteuse, 10 fois plus durable, etc. etc. Je vous laisse aller regarder ça. Et puis peut-être qu'on peut parler un petit peu aussi de choses qu'on fait avec Framasoft en termes de convivialité à ce stade-là. Framasoft et donc Picasoft, le chaton, l'association pour le logiciel libre qui est donc basée à Compiègne, eh bien propose des services plus accessibles aux utilisateurs, enfin en tout cas qui sont gérés directement par des collectifs locaux, et donc qui vont s'opposer à la centralisation par les grands géants états-uniens, qui vont s'opposer également à la propriétarisation, c'est-à-dire que le code logiciel qu'on utilise est libre, n'importe qui peut l'installer, l'utiliser. On voit qu'ici, eh bien, on va avoir une opposition avec du code propriétaire que, du coup, seuls peuvent utiliser les acteurs qui en sont les propriétaires.
Il y a un virage nécessaire à prendre aujourd'hui, pensons-nous, dans nos pratiques et nos manières de penser, par rapport aux questions écologiques, aux enjeux de soutenabilité ou aux enjeux environnementaux. Il ne suffit pas de verdir nos manières de penser et nos manières de faire habituelles pour régler les problèmes d'habitabilité importants qui se posent dès maintenant et qui vont se poser malheureusement en s'aggravant tout au long du XXIe siècle. Alors ce virage nécessaire, selon nous, il concerne bien sûr notamment, alors il concerne les citoyens, il concerne les politiques probablement, sûrement, il concerne d'abord peut-être aussi à l'UTC, les entreprises, l'industrie et les ingénieurs et les étudiants ingénieurs susceptibles d'être intéressés par ce label.
On vient d'entendre la voix d'Hugues Choplin, qui est donc enseignant-chercheur à l'UTC, membre du collectif Ingénierie Soutenable, et qui présentait le label Ingénierie Soutenable proposé aux étudiants de l'UTC. Et donc, on passe à présent une partie qui va nous permettre justement aussi de comprendre comment on peut articuler la technicisation sur différentes sphères, différents aspects. Est-ce que, en tant que particulier, on peut agir, agir dans la technicisation en tant que professionnel, en tant qu'étudiant, justement. C'est vrai qu'à l'UTC, on se pose beaucoup ces questions dans le collectif Ingénierie Soutenable. Et puis, il y a l'aspect politique aussi. On va essayer de comprendre à présent comment négocier dans ces différentes sphères la complexité, tout ce dont tu nous as parlé plus tôt, Stéphane. Comment maintenant agir, comment actionner certains leviers dans la technicisation.
Alors, en effet, donner là quelques pistes générales, on commence à arriver un petit peu à la fin du cours émission, on voudrait prendre des questions, puis c'est éventuellement des choses sur lesquelles on pourra revenir aussi la semaine prochaine en introduction. L'idée générale, c'est que le technosolutionnisme, les logiques d'optimisation, en général, se cantonnent à une sphère qu'on peut appeler professionnelle, à la sphère de la technologie. Encore une fois, on revient un petit peu à ce que je disais au début avec cette idée sous-jacente qui est que la technologie est neutre, c'est-à-dire que, mais en tant qu'ingénieur, je vais concevoir des ordinateurs, des voitures, des différents objets, je vais optimiser les processus, etc. Mais quelque part, c'est pas mon rôle de m'immiscer dans le mode de vie des gens ou, comme on l'entend parfois, de faire de la politique, c'est-à-dire de voir comment les collectifs fonctionnaient. Évidemment, ici, on n'entend pas politique au sens de voter à droite ou à gauche, mais au sens de s'occuper de la vie de la cité. Donc, les gens qui sont en charge de concevoir des objets techniques, eh bien, ne seraient pas concernés ou ne devraient pas être concernés par les modes de vie individuels et par les organisations politiques des collectifs. Avec la technicisation, on va remettre ça en cause. Encore une fois, si on considère, comme on l'a dit tout à l'heure, que la technique n'est pas neutre et que, du coup, elle porte en elle un certain nombre de valeurs, de directions, a priori, qui vont justement avoir un impact sur les modes de vie et sur la politique, eh bien, dans ce cas-là, c'est bien que ça devient du rôle des ingénieurs, ça devient du rôle des gens qui créent la technique, eh bien, de se préoccuper de ces éléments-là. Alors, du coup, par rapport à ces... on va donc poser trois sphères, la sphère professionnelle, donc de l'ordre de la technologie, la sphère personnelle des modes de vie et la sphère du collectif politique. Eh bien, pour... travailler sur ces trois sphères, on va proposer trois leviers. Alors encore une fois, je rentrerai plutôt dans les détails la semaine prochaine, mais le premier, c'est donc l'optimisation. On va le garder, c'est-à-dire qu'évidemment, l'idée d'optimiser les techniques, on va pas l'acheter à la poubelle, on va pas consommer par exemple de l'énergie ou créer des technologies lourdes pour le plaisir. On va conserver l'axe d'optimisation, mais on va le combiner avec deux autres axes. Donc celui qu'on a appelé imagination au niveau des modes de vie, c'est-à-dire que je vais y revenir, et puis celui qu'on a appelé alerte au niveau politique. Donc imagination au niveau des modes de vie, ça veut dire que l'on va coupler à la logique d'optimisation, eh bien on va lui coupler une logique de remise en cause des modes de vie. Alors remise en cause au sens de rediscussion, renégociation, s'autoriser à faire différemment. Par exemple, si je reprends mon exemple du téléphone de tout à l'heure, on peut effectivement considérer qu'on a besoin de construire un réseau 5G ou 6G parce qu'on a besoin de régler un problème de diffusion de contenu massif et que fondamentalement le réseau 5G étant plus un peu moins consommateur sous certains aspects, etc. Voilà. Donc on peut aborder les choses comme ça, mais en faisant ça, eh bien, je suis en train de faire un travail en quelque sorte enfermé sur lui-même au niveau de la technique. À aucun moment je n'ai remis en cause le point de départ qui était que j'ai besoin de transférer une aussi grande quantité de données. Si en revanche je décide que je n'ai plus pas besoin de transférer autant de données, alors mon problème peut se poser tout à fait différemment et du coup, eh bien, il est plus nécessaire d'optimiser le réseau puisque peut-être que j'en ai plus besoin ou plus dans cette forme, etc., etc. La logique d'alerte, eh bien, c'est l'idée qu'à un moment, on peut concevoir également un certain nombre de techniques ou de technologies en tant qu'encore une fois que concepteur de techniques. On peut aussi avoir un rôle à un moment qui est de créer des choses qui, donc, potentiellement, encore une fois, sont optimisées, potentiellement vont agir sur les modes de vie, mais également peuvent avoir un impact sur la façon dont collectivement on va voir le monde dans lequel on vit. Donc ça, on le verra peut-être avec certains exemples, encore une fois, cette semaine ou la semaine prochaine. Mais l'idée peut être de cette façon-là de... proposer au collectif eh bien, d'autres façons de s'organiser. Alors, par exemple, au niveau, ça peut être au niveau de certaines formes de médias sociaux ou de médiatisation de nos vies numériques.
Et l'idée de la redirection écologique, c'est justement ça, c'est de réfléchir à ce que sont ces activités dont nous dépendons actuellement, que nous le voulions ou non, et comment concrètement on arrive à les faire changer de trajectoire, comment on arrive à parfois les arrêter, comment on arrive à poser des arbitrages en prenant en compte à chaque fois la complexité des situations et en allant voir à la fois politiquement et techniquement aussi les implications si on veut effectuer des arbitrages, renoncer à un certain nombre de choses, désaffecter pour les réaffecter à autre chose, un certain nombre de réalités qui font partie de notre quotidien, de ce modèle qui ne peut plus fonctionner aujourd'hui ou continue à fonctionner en l'état. Et ça, pour le coup, malheureusement, on manque de retour là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a des grands programmes qui existent, la décroissance, ce genre de choses. Mais après, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, d'une grande surface, qu'est-ce qu'on fait des technologies numériques, qu'est-ce qu'on fait d'un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément viables dans l'avenir. Là, on n'a pas de réponse. Et donc, c'est un petit peu cette idée d'aujourd'hui essayer de mettre en place un cadre à la fois de recherche et d'action qui va nous permettre d'élaborer, de trouver et de construire concrètement des réponses en un temps relativement bref à ces questions qui sont aujourd'hui des questions lancinantes, mais en même temps urgentes.
On avait eu Alexandre Monin à la radio sur Graphique qui nous parlait de redirection écologique et puis de l'urgente nécessité d'une recherche-action dans ce sens. Et donc Alexandre Monin qui nous parlait beaucoup du concept de fermeture. Donc pour clôturer cette partie sur l'articulation de nos trois sphères pour agir sur de la lotechnicisation. Maintenant qu'on arrive à la fin de cette heure, on va parler un petit peu concret. Maintenant, c'est vrai qu'on est parti dans les leviers, les sphères, la théorie. Revenons un petit peu sur ce qui s'est fait concrètement lors de la première session de la formation lotechnicisation et numérique. On a eu des participants et participantes très motivés qui ont donc réalisé des projets de lotechnicisation. Et donc on a plusieurs exemples à vous transmettre ici, quelques extraits donc en quoi ont consisté ces projets-là. Alors on va faire un mélange entre des nouvelles idées donc pour les participants de cette session et puis des projets qui ont donc été réalisés. On commence par faire avec Oussin.
Ok, alors c'est je l'ai sélectionné parce que visiblement là les nouveaux participants à la session LONUM 2 ont ressenti de l'intérêt pour ce projet, donc il devrait être développé. Donc l'idée c'est d'imaginer un réseau d'information qui anticiperait en fait des perturbations sur les réseaux informatiques et ou électriques. Donc encore une fois, dans cette perspective d'effondrement, qui j'allais dire une perspective positive d'effondrement, mais en tout cas qui n'est pas forcément complètement négative, on pourrait se poser les questions de comment continuer d'informer quand on a du réseau. Comment continuer d'informer, donc ça, ok, on voit à peu près, comment continuer d'informer quand on a encore de l'électricité mais plus de réseau, et comment continuer par exemple d'informer quand on n'a plus rien du tout, plus d'électricité, plus de réseau. Alors évidemment, l'idée, c'est pas forcément d'aller réinventer des choses extrêmement complexes, mais typiquement de revenir à des logiques comme le multi-support, c'est-à-dire qu'à un moment, avoir du web, avoir des réseaux locaux, si on a encore du jus, comme on l'a vu, mais plus d'Internet. Ça peut être également de retravailler sur l'impression et peut-être des formes d'impression sans électricité. Ça peut être d'anticiper en chargeant des batteries, etc. Ça peut être des logiques de transport également différents. Je crois, Audrey, qu'on a eu une coupure de notre instance PeerTube, donc on n'est plus rediffusé sur l'instance web de Dukasoft. Mais
éventuellement, oui.
Alors, je crois que Graphite fonctionne encore, donc on doit être encore en ligne.
Écoute, au moment où je t'entends.
et puis on est sur les ondes, donc voilà. Même si Internet se cassait là à l'heure actuelle, bon, on perdrait un certain nombre de choses, mais on pourrait encore se parler. Il y a des idées aussi que je mentionne rapidement, on va pas effectivement passer autant de temps sur tous les projets, mais l'idée des sneakers net, c'est-à-dire qu'à un moment, des humains qui se déplacent avec des clés USB dans les poches, ça peut transporter beaucoup beaucoup d'informations. Hein. Sur une clé USB, on peut mettre plusieurs gigas de données. Alors, si on met de la vidéo, ça ne fait pas forcément énormément de films, mais si on met des articles Wikipédia, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles Wikipédia. Quelques dizaines de gigas et on a tout Wikipédia dans une langue qui rentre. Et donc, ben voilà, si on se déplace d'un point A à un point B, on peut transférer de l'information de cette façon-là. Voilà, donc après d'autres pistes, et puis je pense que les participants et les participantes vont nous proposer plein d'autres choses, mais ça, donc gérer les intermittences, etc., etc. Voilà, je m'arrête peut-être pour cette première, ce premier exemple. Tu veux faire le second, Audrey, ou j'enchaîne?
Ouais, tu peux enchaîner, ou alors mettre. On a aussi la voix d'Anouk qui était donc participante à la première session, qui avait participé au projet Bibliobox, et donc Anouk avait enregistré une présentation de ce projet, et donc on vous laisse écouter Anouk.
Alors de notre côté, on est parti du projet une offre culturelle numérique légale, libre, publique et low technicisée, que ce soit pour du streaming ou du téléchargement. Une sorte de crossover entre la médiathèque numérique et Popcorn Time, ou un réseau d'échange de clés USB. Nous sommes partis de ça et on propose maintenant la Bibli Low Box, qui permettrait de relancer et revisiter le principe des Bibliobox, comme des sortes de pirate box mais avec en lecture seule. C'est une boîte avec partage de contenu multimédia localement par un partage de Wi-Fi avec une approche multi-support et une réflexion LONUM, le tout en s'appuyant sur des ressources et des collectifs existants. Et ça permettrait de venir en soutien aux animateurs et animatrices des Bibliobox. On est parti du constat qu'il y avait trop de contenu, et paradoxalement, la culture libre n'était pas forcément mise en valeur. Donc plutôt que d'offrir une tonne de contenu sans explication, on veut proposer une curation par des activistes de la culture libre dans un espace de stockage limité de vidéos, de sons, d'images, de contenus texte pertinents sur un intervalle qui laisse du temps à la digestion. On pense à un modèle mensuel. On pourrait aussi rassembler les créateurs et les créatrices de contenu et les usagers et usagères en réseau sur un site plateforme sur le net. Et on essaierait de faciliter l'essaimage des contenus entre box afin de permettre aux personnes qui téléchargent d'avoir leurs propres outils de partage en prenant en compte une variété de supports allant de la clé USB au Raspberry Pi. Les questions, les limites, les critiques qu'on se pose pour l'instant sur ce projet, c'est quelle est la véritable dimension low-tech et écologique. Alors on veut une dimension peer-to-peer qui évite les gros serveurs centralisés. On privilégierait la connexion intermittente. On viendrait se connecter pour télécharger sur la box, mais la box n'aurait pas besoin d'être allumée tout le temps. On sortirait du modèle du streaming pour le coup. Et on envisage quelque chose d'adaptable sur différents matériels, même très anciens.
Voilà, on avait donc un exemple, hein, le projet Bibliobox, et puis il y avait eu aussi le projet OSLO. OSLO, c'était un OS donc pensé pour recycler les anciennes machines. Alors, dans la formation low technicisation et numérique, on passe par plusieurs étapes pour réaliser les projets. On passe par la réalisation d'un état de l'art pour essayer de rassembler les connaissances autour d'un domaine, hein, dans lequel s'inscrit notre sujet. Ensuite, il y a l'étape d'idéation. On va faire foisonner tout plein d'idées à partir de notre sujet. On essaie ensuite de concrétiser, de rendre un petit peu plus concret notre projet en imaginant des situations d'usage par la rédaction de petites histoires. Il y a aussi la réalisation de schémas, de représentations graphiques, pour se représenter un petit peu plus concrètement comment nos idées, les idées qu'on a rassemblées aux étapes d'avant peuvent exister pour de vrai. Et puis après cette étape de maquettage, on va aussi passer par une étape importante qui est l'étape d'évaluation réflexive. Une étape où on va essayer, on va revenir, on va avoir un regard critique sur tout ce que l'on a fait, pensé, imaginé avant. On va essayer de voir justement en mobilisant certains critères, certaines grilles d'évaluation, si notre projet est effectivement un projet de low technicisation pour de vrai, s'il permet vraiment de rendre un outil plus soutenable, plus convivial. Voilà, on détaillera ces étapes-là la semaine prochaine lorsqu'on parlera de la méthodologie de low technicisation et des outils que l'on utilise. Mais juste pour vous faire un petit exemple. Par exemple, pour le projet OSLO, il y avait plusieurs petites histoires rédigées donc lors de l'étape de maquettage. Et puis, je peux vous commencer par vous en lire une. Donc OSLO, je rappelle, un OS pour recycler les anciennes machines. Ça commençait ainsi. Le mois dernier, les membres de l'équipage ont participé à une formation pour apprendre à utiliser les vieux ordis de récup qu'ils embarquent avec eux. Un portable installé dans un caisson étanche, un ordiphone pour avoir un peu de connexion de temps en temps, un autre bricolé avec une webcam qui sert de prise de vue, de GPS et de traitement pour le zonar qu'Eléa a réussi à connecter. Eléa, c'est la formatrice du centre de réaffectation électronique. Elle leur a appris à se servir des fonctions dont ils ont besoin, les cartes de navigation, les prévisions météo, les docs techniques, le carnet de bord et l'envoi de mails. Il y a aussi une bibliothèque de bouquins électroniques, mais pour la musique, il lui avait dit « Laisse tomber, on a les guitares de Jean et Louis, le jam de Corinne et les voix d'un peu tout le monde ». Mélène n'est pas super à l'aise avec tous ces outils, mais là ça va. Avec Eléa, ils ont fait une config adaptée à ses usages. Du coup, il n'y a pas 50 000 trucs à se rappeler. Bon voilà, c'est une histoire pour voir comment eh bien, on pourrait imaginer un OS qui contient les fonctions nécessaires et qui pourrait tourner sur des machines qui pourraient là être embarquées sur un voilier, imaginons. Voilà, un exemple. Vous aurez d'autres exemples à découvrir aussi sur l'ONU.fr. Et on va à présent clôturer notre émission. Stéphane, on parlera de la méthode de toute façon la semaine prochaine.
Oui, on parlera de la méthode la semaine prochaine. Deux points peut-être pour juste introduire ça, c'est que les deux points particuliers de cette méthode sur lesquels on va insister, c'est la notion d'évaluation réflexive a priori et la notion de libre débat public. Évaluation réflexive a priori, ça veut dire qu'on va énormément insister sur pendant notre processus de conception, se poser des questions et essayer en quelque sorte de mettre en défaut nos propres conceptions par rapport aux critères de soutenabilité, de convivialité que l'on a formulés. Et la notion de libre débat public, eh bien, l'autre idée sur laquelle on va insister, c'est que ce que l'on va concevoir, ce que l'on va créer, donc par exemple là, les histoires, les maquettages, etc., eh bien, l'enjeu sera de les publier sous licence libre et ainsi de permettre eh bien, à l'ensemble de la communauté de débattre, de discuter et donc éventuellement de nous montrer à nouveau eh bien, là où nos idées ne fonctionnent pas ou ne sont pas des bonnes idées. Voilà, donc on reviendra là-dessus la semaine prochaine. Et ben voilà, on termine là-dessus. Audrey, tu veux peut-être...
Oui, on termine là-dessus, en effet. Bon, alors on reprendra, on va se rejoindre, vous rejoindre sur Mastodon et puis dans les commentaires du live aussi pour répondre à l'écrit aux questions qui sont arrivées. Il est 14h58, on va en effet clôturer. Merci Stéphane pour cette introduction à l'eau-technicisation.
Merci à toi Audrey.
Et on se retrouve lundi prochain à la même heure sur Graphite et en live sur tube.picassoft.net pour eh bien, un court émission. On vous l'a dit, sur les méthodes et les outils utiles à la réalisation de projets de l'eau-technicisation. On reste en contact sur team.picassoft.net, aussi sur Mattermost, voilà, si vous le souhaitez. Et puis autour du tag l'ONUM sur Mastodon et Peertube. Vous pouvez aussi venir faire un tour sur librecours.net pour retrouver les supports de la formation. Et puis pour en savoir plus en général sur l'ONUM, rendez-vous sur l'ONUM.fr. Bonne journée à toutes et à tous et à la semaine prochaine.
Je veux vous parler de l'arme de demain, enfantée du monde, elle en sera à la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur. Sensation qui peut me rendre fou. Nos sens, ce sont nos fils, nos pauvres marionnettes. Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as l'étonnateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main, c'est la fin. La fin. Mon père ne dort plus sans...
français excitant. Quelqu'un à l'enfant, de quoi tenir le coup. Suis un électron bombardé de protons. Le rythme de la ville, c'est ça mon vrai patron. Je suis chargé. De sa humeur. Oh non, faudrait pas que je me laisse aller. Faudrait pas que je me laisse aller. Faudrait pas que je me laisse aller. À côté du cœur, la bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as des détonateurs juste à côté.